Ce mois-ci découvrait, grâce à son retour dans le ciel, la position surprenante des anneaux de Saturne. Observez également un très joli essaim d'étoiles filantes, notamment dans l'hémisphère austral, celui des états aquarides. Comme à l'accoutumée, dans ce 26e épisode, retrouverez les éphémérides planétaires et lunaires du mois de mai, suivis de l'agenda céleste et des idées d'observation. Bonjour et bienvenue dans la parenthèse étoilée, le podcast des passionnés du ciel présenté par Alain Jupin. Commençons par Mercure, qui en Europe sera difficilement visible, malgré son élongation maximale à 26 degrés à l'ouest du Soleil le 9 mai. En Europe, elle est plaquée sur l'horizon du fait de la configuration de l'écliptique. Sous les tropiques, les conditions sont meilleures. Elle traversera les constellations des Poissons jusqu'au 18 mai, puis fera une incursion de quelques heures dans la constellation de la Baleine, avant d'entrer dans le Bélier, puis dans le Taureau le 30 mai. Pour les astrologues, elle est dans le signe du Bélier jusqu'au 15 mai, puis dans le signe du Taureau. Pour Vénus, elle est maintenant inobservable en Europe, alors qu'il sera encore possible de la repérer sous les tropiques, mais dans des conditions assez délicates. Elle est dans la constellation du Bélier jusqu'au 18 mai, pour finir le mois dans le Taureau. Pour les astrologues, elle est dans le signe du Taureau jusqu'au 23 mai, puis dans les Gémeaux. Pour Mars, elle se repère facilement, y compris à l'œil nu dans le ciel du matin. C'est valable aussi bien en Europe que sous les tropiques. Mais il est encore beaucoup trop tôt pour qu'elle soit intéressante dans nos instruments. Elle est tout le mois dans la constellation des Poissons, hormis du 9 au 13 mai, où elle fera une escapade dans la constellation de la Baleine. Pour les astrologues, elle est dans le signe du Bélier durant tout le mois. La géante gazeuse Jupiter est maintenant inobservable et en conjonction solaire le 18 mai. Le 21 mai, elle sera à 902 millions de kilomètres d'Éthériens, soit la plus grande distance par rapport à nous pour cette année. Elle est dans la constellation du Taureau pendant tout le mois. Pour les astrologues, elle est dans le signe astrologique du Taureau jusqu'au 26 mai pour rejoindre les Gémeaux. Pour la planète Saturne, elle redevient observable dans nos instruments en deuxième partie de nuit. Vous serez incroyablement surpris par l'angle de ses anneaux. À faible grossissement, il se résume quasiment en une ligne. En Europe, elle restera très basse sur l'horizon, mais sous les tropiques, les conditions d'observation sont déjà excellentes. Elle est tout le mois dans la constellation du Verseau et le signe astrologique des Poissons. Uranus est inobservable et sera en conjonction solaire le 13 mai, et sera également le même jour au plus loin des terriens, à 3 milliards et 82 millions de kilomètres de nous. Elle finit la traversée de la constellation du Bélier le 23 mai, pour entrer dans le Taureau. Pour les astrologues, elle est toujours dans le signe astrologique du Taureau, et ce, jusqu'en 2026. Pour Neptune, la plus éloignée des planètes, elle n'est toujours pas visible, même si elle s'éloigne de la position apparente du Soleil. Cette lointaine planète navigue lentement dans la constellation et le signe des Poissons, tant pour les astronomes que pour les astrologues. Toutes ces planètes orbitent autour du Soleil, qui traverse la constellation du Bélier jusqu'au 14 mai, pour entrer dans celle du Taureau. Pour les astrologues, ils débutent le mois dans le signe du Taureau, avant d'entrer le 20 mai dans celui des Gémeaux. Pour conclure ce chapitre planétaire, aucune planète n'est rétrograde ce mois-ci. Aucune, disons presque, puisque la planète naine Pluton entame sa rétrogradation annuelle le 2 mai et pour une durée de 162 jours. Ce joli mois de mai débutera avec un dernier quartier qui aura lieu le mercredi 1er dans la constellation du Capricorne. La nouvelle lunaison débutera le mercredi 8 avec la nouvelle lune dans la constellation du Bélier. Le mercredi 15 sera le premier quartier, visible dans la constellation du Lion, et le jeudi 23 ce sera une pleine lune dans la constellation du Scorpion. Ce mois-ci elle est surnommée la pleine lune des fleurs. Nul besoin d'expliquer la raison de cette appellation. Et nous terminerons le mois avec à nouveau un dernier quartier le jeudi 30 mai dans la constellation du Verseau. Pour les spécialistes, notons que la Lune sera ascendante sur son orbite jusqu'au 13 mai. Ensuite, elle sera une Lune descendante jusqu'au 27 mai. Elle croisera le plan de l'écliptique une première fois le 5 mai pour le nœud ascendant et une seconde fois le 17 mai pour le nœud descendant. Le 5 mai, la Lune sera au périgée, à 363 163 km de nous. A l'inverse, le 17 mai, elle sera à l'apogée, à 404 640 km. Le 3 mai, aura lieu une conjonction entre la Lune et Saturne, à observer dans des jumelles dès les premières lueurs du jour. En Nouvelle-Zélande et en Antarctique, la Lune occultera la planète Saturne. Le 31 mai, Saturne sera de nouveau occulté par la Lune pour l'Afrique du Sud, le sud du Brésil, du Chili, les Argentins et les Uruguayens. Le soir, la Lune sera en conjonction avec Neptune, invisible en Europe, mais les Tahitiens pourront voir l'occultation de Neptune par l'astre Sélène. Le 5 mai à l'aube, le fin croissant lunaire sera en conjonction avec Mars. Là encore, à observer aux jumelles dans les premières lueurs du jour. Le 6 mai, toujours à l'aube et armé de vos jumelles, vous pourrez tenter la conjonction entre la Lune et Mercure. Mais en Europe, cela relève plus du défi, alors que ce sera beaucoup plus aisé sous les tropiques. Le 7 mai, le ridicule croissant lunaire sera en conjonction avec la brillante Vénus, une observation extrêmement délicate, à tenter avec des jumelles, aussi bien le matin qu'en plein jour. Et enfin, le 8 mai, c'est la dernière conjonction planétaire visible avec Jupiter, celle d'Uranus n'étant pas visible. Il faudra tenter l'observation le soir avec des jumelles, mais avec un croissant âgé de seulement 16 heures et éclairé de même pas 1%, cela représente un sacré défi, car tout ce beau monde est à quelques degrés seulement au-dessus de l'horizon. L'agenda du ciel, au jour le jour. En ce mois de mai, la Station Spatiale Internationale fera de jolis passages nocturnes durant tout le mois. Profitez-en que ce soit lors des passages du soir ou ceux matinaux. Vous trouverez en description le lien pour savoir quand l'observer. Le 5 mai, c'est le maximum de l'essaim d'étoiles filantes des États Aquarides qui s'étend du 19 avril au 28 mai avec jusqu'à une cinquantaine de météores par heure estimés lors du pic. Le maximum nous semblant venir de la constellation du Verseau, située basse sur l'horizon en Europe, il intéressera essentiellement les observateurs austro, comme à La Réunion ou à Tahiti. Mais il sera tout de même possible de les observer en Europe. Cette année, pas de lune gênante, et pour en profiter, en dernière partie de nuit, allongez-vous dans une chaise longue, en direction de Saturne, et attendez sans vous endormir l'apparition des fugaces traînées zébrant le ciel. Le 9 mai, le soleil se couche dans l'arche de l'Arc de Triomphe parisien. Il faut pour cela vous placer au niveau du rond-point des Champs-Élysées vers 21h, en heure légale française. La veille ou le lendemain, c'est également possible, mais avec quelques minutes de décalage. Le 15 mai, dans l'après-midi, il est possible d'observer en plein jour le V et le X lunaire. S'agissant d'un phénomène assez récurrent, j'ai rédigé une page dédiée sur mon site internet pour en savoir plus sur le phénomène. Le lien est en description. Le 23 mai, les deux étoiles les plus brillantes du ciel, à savoir le Soleil et Sirius, se couchent en même temps. On parle de coucher cosmique. Ce n'est pas un phénomène observable, mais de la mécanique céleste pure. Je reparlerai un petit peu plus tard dans l'année de la notion du lever héliac. Enfin, clôturons cet agenda céleste avec la nuit du 23 au 24 mai, où la Lune occultera la brillante étoile Antarès du Scorpion. Ce sera visible dans une grande partie des Amériques, et ce sera notamment le cas en début de soirée dans les Antilles, et en milieu de nuit pour les Guyanais. Pour le reste de la planète, ce sera une très belle conjonction lunaire. Les idées d'observation. La partie bien visible du zodiaque s'étendra des Gémeaux jusqu'aux Poissons, qui refont surface en toute fin de nuit. En milieu de nuit et en milieu de mois, la constellation d'Hercule est accrochée au zénith, entourée du Bouvier, de la couronne boréale, du Dragon, de la Lyre et enfin du Serpentaire, qu'on appelle aussi l'Ophiuchus. Dans des Jumelles, je vous propose l'amas ouvert d'Alpha Persei, aussi catalogué Melotte 20 ou Colinder 39. Il s'agit d'un amas ouvert situé à 560 années-lumière, âgé de 50 millions d'années environ, et peuplé d'un peu plus de 500 étoiles. Il est très facile d'accès aux jumelles, puisque bas sur l'horizon, et encore bien visible dans les dernières lueurs du crépuscule. Il s'observe comme un amas d'une quinzaine d'étoiles assez brillantes, et jusqu'à une cinquantaine de luminosités plus modestes. Évidemment, il est impossible de passer à côté de Melotte 111, aussi appelé l'amas de la chevelure de Bérénice. Ce gigantesque amas est visible à l'œil nu et devient somptueux dans des jumelles. Mais pour observer sa forme de V caractéristique, formée par la douzaine d'étoiles qui le composent, gare aux torticolis car il est quasiment accroché au zénith à cette période de l'année. Ensuite, pointez vos jumelles dans la constellation de l'Ophiuchus pour observer l'amas ouvert Melotte 186, aussi appelé l'amas du taureau Pagnatovi. Il s'agit là aussi d'un gigantesque amas ouvert, âgé d'une centaine de millions d'années et composé d'une quinzaine d'étoiles distantes de 650 années-lumière environ. Il est repérable à l'œil nu entre l'épaule du Serpentaire et la tête du serpent. Dans un télescope, vous pouvez pointer M102, surnommée la galaxie du fuseau dans la constellation du Dragon. Il s'agit d'une galaxie lenticulaire ou, comme suggéré plus récemment, d'une galaxie spirale mal classifiée. C'est d'ailleurs le seul objet Messier dont la classification est encore incertaine. Elle est distante d'environ 40 millions d'années-lumière, elle s'observe de profil et comme une petite tache diffuse assez difficile de repérage. Sa particularité est d'être entourée d'un large anneau de poussière. Une cible à réserver aux possesseurs de télescopes de bon diamètre, d'au moins 250 mm. Dans la constellation des chiens de chasse, ciblez la galaxie du Tournesol, cataloguée M63. Il s'agit d'une galaxie spirale distante de 16 millions d'années-lumière. Bien que repérable dans des jumelles, un instrument de petit diamètre fait déjà apparaître une tache diffuse, alors que seuls les instruments de grand diamètre feront apparaître plus de détails. Et pour finir, toujours dans les chiens de chasse, passons au magnifique amas globulaire M3, distant de 33 000 années-lumière et peuplé d'un demi-million d'étoiles. Bien qu'identifiable dans des jumelles, un petit instrument permet de résoudre les étoiles extérieures et la vision devient féerique à partir d'un instrument de 250 mm. C'est à mon sens avec M13 l'un des plus beaux amas globulaires visibles dans l'hémisphère boréal. Pour conclure cet épisode, comme vous l'avez peut-être remarqué, j'ai un petit peu remanié le format des éphémérides. Comme toujours, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur cette petite nouveauté. Comme toujours, vous pouvez l'écouter sur Spotify, Deezer, Google et Apple Podcasts, et enfin également sur YouTube. Quelle que soit la plateforme, pour ne pas rater le prochain épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme en question, ou mieux à la lettre d'information, mise en place cet été. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. N'oubliez pas de lever les yeux vers le ciel pour de belles observations astronomiques.